Le médecin ne m'a pas compris. Il n'a rien compris. Sans doute était-ce difficile à expliquer. On décida qu'il fallait essayer de m'électriser. Bien. On me remit une fiche. Je devais me trouver à 1 heure à la salpêtrière. J'y fus. Je dus d'abord passer devant une longue file de baraques et traverser plusieurs cours où des gens que leurs bonnets blancs faisaient semblables à des forçats stationnaient sous les arbres vides. Enfin, je pénétrai dans une longue pièce sombre qui avait l'apparence d'un couloir et prenait tout son jour d'un côté par 4 fenêtres d'un vert double et verdâtre, dont l'une était séparée de l'autre par un pan de mur large et noir. Un banc de bois les longeait, et sur ce banc, ils étaient assis, eux, tous ceux qui me connaissaient et attendaient. Oui, ils étaient tous là. Lorsque je me fus habituée au demi-jour de la pièce, je remarquai cependant qu'il y avait aussi, dans cette file interminable de gens assis, quelques autres personnes, de petites gens, des artisans, des servantes et des camionneurs. Du côté étroit du couloir, sur des chaises particulières, 2 grosses femmes s'étaient étalées et s'entretenaient, des concierges sans doute. Je regardai l'heure, il était 1h05. Dans 10 minutes, mon tour devait venir. Ce n'était donc pas si terrible. L'air était mauvais, lourd, plein de vêtements et d'haleine. À un certain endroit, la fraîcheur forte et croissante de l'éther pénétrait par la fente d'une porte. Je commençais à aller et venir. Je songeais tout à coup que l'on m'avait envoyé ici, parmi ces gens, à cette consultation publique surpeuplée. Cela me confirmait en quelque sorte pour la première fois officiellement que je faisais partie de ces épaves. Le médecin l'avait-il lu sur ma figure? Pourtant, je lui avais rendu visite dans un costume assez convenable, je lui avais même fait passer ma carte, et malgré cela, sans doute l'avait-il appris quelque part, ou peut-être m'étais-je trahi moi-même. Allons, puisque c'était un fait accompli, je ne m'en trouvais somme toute pas trop mal. Tous ces gens étaient assis là bien sagement et ne s'occupaient pas de moi. Quelques-uns éprouvaient des douleurs et remuaient un peu une jambe pour les mieux supporter. Plusieurs hommes avaient posé leur tête sur la paume de leurs mains, d'autres dormaient profondément avec des visages lourds comme enfouis sous l'éboulement du sommeil. Un gros homme, au cou rouge et enflé, était penché en avant, regardait fixement par terre et laissait tomber de temps en temps en un point qui lui paraissait sans doute convenir particulièrement à cet exercice, un crachat qui claquait sur le parquet. Un enfant sanglotait dans un coin. Il avait tiré à lui, sur le banc, ses longues jambes maigres et il les tenait à présent embrassées, étroitement serrées contre lui, comme si on avait voulu l'en séparer. Une petite femme pâle, un chapeau de crêpe orné de fleurs rondes et noires, posé de travers sur ses cheveux, avait la grimace d'un sourire autour de ses lèvres misérables, mais ses paupières blessées débordaient sans cesse. On avait assis non loin d'elle une fillette, au visage rond et lisse, dont les yeux inexpressifs sortaient des orbites. Sa bouche était ouverte, de sorte que l'on voyait les gencives blanches, saliveuses, avec les vieilles dents atrophiées. Et il y avait beaucoup de pansements, des pansements qui entouraient de leurs bandeaux, couche par couche, toute une tête, jusqu'à ne laisser voir qu'un œil qui n'appartenait plus à personne. Des pansements qui dissimulaient et des pansements qui laissaient voir ce qui se trouvait en dessous. Des pansements qu'on avait ouverts et où était étendue à présent, comme dans un lit sale, une main qui n'était plus une main, et une jambe emmaillotée qui sortait du rang, grande comme un homme tout entier. J'allais et je venais et m'efforçais d'être calme. Je m'occupais beaucoup du mur d'en face. Je remarquais qu'il encadrait un certain nombre de portes à un battant et qu'il n'atteignait pas le plafond, de sorte que ce couloir n'était pas complètement séparé des pièces qui devaient se trouver à côté. Je regardais ensuite ma montre. J'avais arpenté la salle d'attente pendant 1 heure. Quelques instants après, vinrent les médecins. D'abord quelques jeunes gens qui passèrent avec des visages indifférents. Enfin, celui chez lequel j'avais été, en gants clairs, en chapeau à 8 reflets et en par-dessus impeccable. Lorsqu'il me vit, il souleva un peu son chapeau et sourit distraitement. J'eus alors l'espoir d'être appelé aussitôt, mais 1 heure s'écoula encore. Je ne me rappelle plus à quoi je la passais. Elle s'écoula. Vint ensuite un homme vieux, ceint d'un tablier taché, une sorte d'infirmier qui me toucha l'épaule. J'entrai dans une des chambres voisines. Le médecin et les jeunes gens étaient assis autour de la table et me regardaient. On me donna une chaise. Voilà. À présent, je devais raconter mon cas. Le plus brièvement possible, s'il vous plaît, car ces messieurs ne disposaient pas de beaucoup de temps. Je me sentais singulièrement mal à l'aise. Les jeunes gens étaient assis et me regardaient avec cet air de supériorité et cette curiosité professionnelle qu'ils avaient appris. Le médecin que je connaissais caressait sa barbiche noire et souriait distraitement. Je pensais que j'allais fondre en larmes, mais je m'entendis répondre couramment en français. « J'ai déjà eu l'honneur, monsieur, de vous donner tous les renseignements que je puis vous donner. Si vous jugez indispensable que ces messieurs soient mis au courant, vous sauriez certainement le faire en quelques mots, alors que cela me serait à moi-même infiniment pénible. » Le médecin se leva avec un sourire poli, se dirigea vers la fenêtre avec les assistants et prononça quelques mots qu'il accompagnait d'un mouvement de la main verticale et oscillant. Au bout de 3 minutes, l'un des jeunes gens, myope et négligent, revint à ma table et demanda en essayant de me regarder d'un air sévère. « Vous dormez bien, monsieur ?»« Non, mal. » Après quoi, il se précipita de nouveau vers le groupe de la fenêtre. On y discuta encore pendant un moment, puis le médecin se tourna vers moi et me dit qu'on me rappellerait. Je lui fis observer que j'avais été convoqué pour 1 heure. Il sourit et eut quelques mouvements rapides et sautillants de ses petites mains blanches qui voulaient sans doute dire qu'il était très occupé. Je retournai donc dans mon couloir, où l'air était devenu beaucoup plus pesant, et je recommençai à aller et venir, bien que je me sentisse mortellement las. L'odeur humide et renfermée finit par me donner le vertige. Je m'arrêtai à la porte d'entrée et l'entrouvris. Je vis que dehors, c'était encore l'après-midi et qu'il faisait du soleil. Cela me ranima d'une façon inexprimable. Mais j'étais là depuis 1 minute à peine lorsque je m'entendis interpeller. Une femme, assise à 2 pas de moi, auprès d'une petite table, m'adressa la parole d'une voix sifflante. « Qui m'avait dit d'ouvrir la porte ?» me demandait-elle. Je répondis que je ne pouvais supporter l'atmosphère de la salle. Cela ne regardait que moi, mais la porte devait rester fermée. N'était-il donc pas possible d'ouvrir une fenêtre ? Non, c'était interdit. Je décidai de recommencer à aller et venir, parce que c'était une manière de m'étourdir et que cela ne pouvait gêner personne. Mais cela aussi déplaisait maintenant à la femme assise auprès de la petite table. N'avais-je donc pas de place ? Non, je n'en avais pas. Mais il s'en trouverait bien quelqu'une. La femme avait raison. Il se trouva en effet aussitôt une place à côté de la fillette aux yeux désorbités. À présent, j'étais assis, avec le sentiment que cet état devait certainement préparer à de terribles choses. À ma gauche était la fillette aux gencives pourries. Je ne pus distinguer qu'au bout d'un instant ce qui était à ma droite. C'était une masse énorme, incapable de se mouvoir, qui avait un visage et une main grande, lourde et immobile. Le côté du visage que je voyais était vide, sans traits, ni souvenirs, et on éprouvait de l'inquiétude à voir que les vêtements étaient semblables à ceux d'un cadavre qu'on aurait habillé pour le mettre en bière. L'étroite cravate noire était nouée de la même manière lâche, impersonnelle, autour du col, et l'on voyait que la veste avait été mise par quelqu'un d'autre à ce corps sans volonté. On avait posé la main sur ce pantalon, là, exactement où elle était, et les cheveux même étaient peignés comme par des veilleuses de mort, ordonnés avec raideur comme le poil d'une bête empaillée. J'observais tout cela avec attention, et je me pris à songer que là était donc la place qui m'était destinée, car je croyais être enfin arrivé à l'endroit de ma vie où je pourrais rester. Oui, le destin suit des voies bien singulières. Soudain s'élevèrent non loin de moi les cris effrayés, comme de quelqu'un qui se débat, d'un enfant, auquel succéda un sanglot léger et soutenu. Tandis que je m'efforçais de deviner d'où ce bruit avait pu venir, un petit cri étouffé se perdit en un tremblement, et j'entendis des voix qui questionnaient, une voix plus basse qui ordonnait, et puis une machine indifférente se mit à ronfler et ne se souciait plus de rien. Je me rappelais alors ce demi-mur, et je compris que tous ces bruits venaient d'au-delà des portes et qu'on y travaillait à présent. En effet, de temps en temps, apparaissait l'infirmier au tablier taché et faisait signe. Je ne pensais même plus que ce pût être pour moi. Était-ce pour moi? Non. Deux hommes étaient là avec un fauteuil à roulettes. Ils y déposèrent la masse et je vis à présent que c'était un vieux paralytique qui avait encore un autre côté, plus petit, usé par la vie, avec un œil ouvert, trouble. Et triste. Ils le poussèrent de l'autre côté, et il y eut auprès de moi une large place. Cependant, j'étais toujours assis, et je me demandais ce qu'ils avaient l'intention de faire à la fillette idiote, et si elle aussi crierait. Là derrière, les machines ronflaient avec un bruit d'usine si régulier qu'il n'avait plus rien d'inquiétant. Mais subitement, tout se tut. Et dans le silence, une voix prétentieuse et vaniteuse que je croyais connaître dit « Riez !» Un silence. « Riez, mais riez, riez !» Je riais déjà. On ne pouvait s'expliquer pourquoi cet homme-là, de l'autre côté, ne voulait pas rire. Une machine ronfla, mais se tut aussitôt. On échangea des paroles. Puis la même voix énergique s'éleva et ordonna « Dites-nous le mot « avant » et l'épelant « A-V-A-N-T ». Silence. On n'entend rien, encore une fois. Et alors, lorsque j'entendis balbutier si mollement, alors pour la première fois depuis de longues, longues années, ce fut de nouveau là. Cela, qui m'avait inspiré ma première et profonde frayeur, lorsque tout enfant, la fièvre m'avait tenue. La grande chose. Oui, c'est ainsi que je l'avais toujours appelée, lorsque tous étaient debout autour de mon lit et tâtaient mon pouls et me demandaient ce qui m'avait effrayée. La grande chose. Et quand il cherchait le docteur et qu'il était là, je le priais de faire seulement que la grande chose s'en allât, cela et rien de plus. Mais il était comme les autres. Il ne pouvait pas l'enlever, bien que je fusse alors si petit et qu'il eût été facile de m'aider. Et voici qu'elle était de nouveau là. Par la suite, elle avait disparu. Elle n'était même pas revenue par les nuits de fièvre. Mais voici qu'elle était là, bien que je n'eusse pas de fièvre. Voici qu'elle était là. Elle grandissait en jaillissant de moi comme une tumeur, comme une seconde tête, comme une partie de moi-même, et qui cependant ne pouvait pas m'appartenir puisqu'elle était si grande. Elle était là comme une grande bête morte qui aurait été autrefois, lorsqu'elle vivait encore, ma main ou mon bras. Et mon sang me traversait et la traversait comme un seul et même corps. et mon cœur devait battre plus fort pour chasser le sang jusqu'à elle. Il n'y avait presque pas assez de sang, et le sang la pénétrait malaisément et revenait malade et mauvais. Mais elle gonflait et croissait devant mon visage comme une bosse chaude et bleuâtre. Elle dépassait ma bouche, et déjà mon dernier œil disparaissait dans son ombre. Je ne me rappelle plus combien de cours j'ai traversé pour sortir. C'était le soir, et je m'égarais dans ce quartier inconnu. Et je suivis des boulevards avec des murs sans fin dans une direction, et lorsqu'il n'y avait décidément pas de fin, je retournais dans la direction opposée, jusqu'à une place, n'importe laquelle. Là, je commençais à suivre une rue, et d'autres rues venaient que je n'avais jamais vues, et d'autres encore. Des trams électriques arrivaient parfois, très vite et trop claires, passaient et s'éloignaient avec leur sonnerie dure et frappée. Mais les écriteaux portaient des noms que je ne connaissais pas. Je ne savais pas dans quelle ville je me trouvais, si j'avais ici quelque part un logis, ni ce que je devais faire pour ne pas marcher toujours. Et voici encore cette maladie, dont l'atteinte m'a toujours été si étrange. Je suis certain qu'on ne sent pas à quel point elle est dangereuse, de même qu'on s'exagère l'importance d'autres maladies. Cette maladie n'a pas de particularité déterminée. Elle prend les particularités de ceux qu'elle attaque. Avec une sûreté de somnambule, elle puise en chacun son danger le plus profond, qui semblait passer, et le pose à nouveau devant lui, tout près, dans l'heure imminente. Des hommes, qui comme collégiens avaient une fois essayé ce vice plein de détresse, dont les familiers déçus sont ces pauvres et dures mains de gamins, se surprennent de nouveau, tentés par lui, ou bien c'est une autre maladie, surmontée jadis, qui reprend en eux. Ou bien une habitude perdue est de nouveau là, une certaine façon hésitante de tourner la tête, qui leur était propre voici des années. Et avec ce qui revient s'élève tout un tissu confus de souvenirs égarés qui s'y accrochent comme des algues mouillées à un objet englouti par les eaux. Des vies dont on n'aurait jamais rien appris viennent à la surface et se mêlent à ce qui a réellement été et repoussent un passé que l'on croyait connaître. Car ce qui remonte ainsi est plein d'une force reposée et neuve, mais ce qui toujours était là est fatigué d'avoir été trop souvent évoqué. Je suis couchée dans mon lit, à mon cinquième étage, et mon jour, que rien n'interrompt, est comme un cadran sans aiguille. De même qu'une chose qui était longtemps perdue se retrouve un matin à sa place, ménagée et bonne, presque plus neuve qu'au jour de la perte, comme si elle avait été confiée aux soins de quelqu'un. De même, se retrouvent ça et là sur la couverture de mon lit des choses perdues de mon enfance et qui sont comme neuves. Toutes les peurs oubliées sont de nouveau là. La peur qu'un petit fil de laine qui sort de l'ourlet de la couverture ne soit dur, dur et aigu comme une aiguille en acier. La peur que ce petit bouton de ma chemise de nuit ne soit plus gros que ma tête, plus gros et plus lourd. La peur que cette petite miette de pain ne soit en verre lorsqu'elle touchera le sol et qu'elle ne se brise. Et le souci pesant qu'en même temps tout ne soit brisé. Qu'à jamais tout ne soit brisé. La peur que ce bord déchiré d'une lettre ouverte ne soit un objet défendu, un objet indiciblement précieux, pour lequel nul endroit de la chambre ne serait assez sûr. La peur d'avaler, si je m'endormais, le morceau de charbon qui est là, devant le poêle. La peur qu'un chiffre quelconque ne puisse commencer à croître dans mon cerveau, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour lui en moi. La peur que ma couche ne soit en granit gris. La peur de crier et qu'on accourt à ma porte, et qu'on ne finisse par l'enfoncer, la peur de me trahir et de dire tout ce dont j'ai peur, et la peur de ne pouvoir rien dire parce que tout est indicible, et les autres peurs, les peurs. J'ai prié pour retrouver mon enfance, et elle est revenue, et je sens qu'elle est encore toujours dure, comme autrefois, et qu'il ne m'a servi à rien de vieillir. Hier, ma fièvre allait mieux, et aujourd'hui, le jour commence comme un printemps en images. Je veux essayer de sortir, je veux aller à la Bibliothèque nationale, chez mon poète que je n'ai pas lu depuis si longtemps, et peut-être en sortant, traverserai-je lentement les jardins. Peut-être y a-t-il du vent sur le grand étang qui a de l'eau si véritable, et des enfants viendront, qui lâcheront leur bateau aux voiles rouges et les regarderont. Aujourd'hui vraiment je n'attendais pas cela. J'étais sortie avec tant de courage, le plus naturellement et le plus simplement du monde. Et pourtant, un événement de nouveau survint, qui me saisit comme un papier, qui me fripa et me rejeta. Un événement inouï survint. Le boulevard Saint-Michel était vide et vaste, et l'on marchait facilement sur sa pente douce. Des battants de fenêtres s'ouvraient très haut, avec un clair son de verre, et leurs reflets volaient comme des oiseaux blancs par-dessus la rue. Une voiture aux roues d'un rouge vif passa, et plus bas, quelqu'un portait un objet d'un vert lumineux. Des chevaux trottaient dans leur harnais luisant sur la piste sombre et fraîchement arrosée de la rue. Le vent était agité, doux, tendre, et tout montait, des odeurs, des cris, des cloches. Je passais devant un de ces cafés où de fautes ciganes rouges jouent d'habitude le soir. Par les fenêtres ouvertes s'échappait, avec la conscience mauvaise, l'air de la nuit passée. Des sommeliers aux cheveux plats étaient occupés à balayer devant la porte. L'un était penché et jetait poignée par poignée un sable jaunâtre sous les tables, lorsqu'un autre qui passait le heurta et du geste désigna le bas de la rue. Le garçon qui avait le visage rouge regarda un instant fixement dans cette direction, puis un rire s'étendit sur ses joues imberbes, comme s'il avait été répandu. Il fit signe aux autres garçons et tout en riant, tourna la tête de droite à gauche plusieurs fois et rapidement pour les appeler tous, sans rien perdre lui-même du spectacle. À présent, tous étaient debout et regardaient cette chose risible qui cherchant, qui souriant, qui fâchait de n'avoir encore rien distingué. Je sentis qu'un peu de peur commençait en moi. Je ne sais quoi me poussa de l'autre côté de la rue, et puis je me mis à marcher plus vite et je parcourais inconsciemment du regard les rares personnes qui me précédaient, sur qui cependant je ne remarquais aucune particularité. Pourtant, je vis que l'une d'elles, un garçon de magasin en tablier bleu qui portait derrière l'épaule un panier à anse vide, suivait quelqu'un des yeux. Lorsqu'il eut assez vu, il se retourna du côté des maisons et, clignant de l'œil à un commis qui éclatait de rire, fit devant son front ce mouvement circulaire de la main dont le sens est familier à tout le monde. Puis ses yeux noirs lancèrent des éclairs et, l'air satisfait, il vint à ma rencontre en se dandinant un peu. Je m'attendais à voir, aussitôt que ma vue s'étendrait sur un espace plus profond, je ne sais quelle figure extraordinaire et frappante, mais personne ne marchait devant moi qu'un grand homme décharné, dans un pardessus sombre, un chapeau souple et noir posé sur ses cheveux courts d'un blond terne. Je m'assurais qu'il n'y avait rien de risible, ni dans les vêtements, ni dans l'allure de cet homme, et déjà je m'apprêtais à regarder en avant de lui le bas du boulevard, lorsqu'il buta sur je ne sais quoi. Comme je le suivais de près, je me tins sur mes gardes lorsque j'approchais de l'endroit, mais il n'y avait rien, absolument rien. Nous continuâmes tous deux, lui et moi. La distance entre nous restait la même, puis il y eut un carrefour, et il arriva alors que l'homme descendit les marches du trottoir en sautillant avec des pieds inégaux, à peu près comme les enfants dansent ou sautillent parfois en marchant lorsqu'ils se réjouissent. Il remonta sur l'autre trottoir d'un seul grand pas. Mais à peine s'y trouvait-il qu'il plia un peu une jambe et sautilla sur l'autre, une fois, puis encore et encore. À présent, l'on pouvait en effet fort bien prendre ce brusque mouvement pour une sorte de culbute si l'on se persuadait qu'il y avait eu là un petit objet quelconque, un pépin, la pelure glissante d'un fruit, n'importe quoi. Et l'étrange était que l'homme lui-même sembla croire à l'existence d'un obstacle, car il se retournait chaque fois avec ce regard mi-contrarié, mi-plein de reproches que l'on porte d'habitude en pareilles circonstances sur l'endroit importun. Encore une fois, un pressentiment m'appela de l'autre côté de la rue, mais je n'obéis pas et continuai de suivre cet homme en fixant toute mon attention sur ses jambes. Je dois avouer que je me sentis singulièrement soulagée, car pendant une vingtaine de pas, le sautillement ne reparut point. Mais lorsque je levai les yeux, je remarquai qu'il était arrivé à l'homme une autre mésaventure. Le col de son pardessus s'était relevé, et il avait beau s'efforcer, tantôt avec une main, tantôt avec les deux à la fois, de le replier, il n'y pouvait réussir. Ce sont des choses qui arrivent, cela ne m'inquiétait pas. Mais aussitôt après, je remarquai à mon plus vif étonnement qu'il y avait dans les mains agitées de cet homme deux mouvements. Un mouvement dérobé et rapide qui relevait toujours de nouveau le col, et cet autre mouvement, détaillé, prolongé et comme épelé avec une lenteur et une précision exagérées, qui devait opérer son abaissement. Cette observation me troubla si fort que 2 minutes s'écoulèrent avant que j'eusse reconnu qu'il y avait dans la nuque de l'homme, derrière son pardessus relevé et ses mains agitées de secousses nerveuses, le même sautillement terrible en 2 temps qui venait de quitter ses jambes. À partir de cet instant, j'étais liée à lui. Je comprenais que ce sautillement errait dans son corps et essayait de s'en échapper ici ou là. Je comprenais la peur que l'homme avait des gens et je commençais à observer moi-même, prudemment, si les passants s'apercevaient de quelque chose. Un froid subit me perça le dos lorsque ses jambes firent soudain un petit saut convulsif. Mais personne ne l'avait vu et je me dis que moi aussi je buterais légèrement si quelqu'un s'en apercevait. C'était en effet un moyen de faire croire aux curieux qu'il y avait eu là un petit obstacle imperceptible sur lequel nous avions par hasard tous deux marché. Mais pendant que je me demandais ainsi comment je viendrais à son aide, il avait trouvé lui-même un nouvel et excellent moyen. J'ai oublié de dire qu'il avait une canne. C'était une canne banale, en bois foncé, avec un manche arrondi et simple. Dans son anxieuse recherche, l'idée lui était venue de tenir cette canne contre son dos, d'abord d'une seule main, car qui savait à quoi l'autre pourrait encore lui être nécessaire. Tout droit sur la colonne vertébrale, de l'appuyer sur l'échine et de glisser l'extrémité arrondie de cette béquille dans son col, de telle sorte qu'on la sentait dure et comme un point d'appui, derrière la vertèbre de la nuque et la première vertèbre du dos. C'était une attitude qui ne pouvait pas frapper, qui devait tout au plus paraître un peu extravagante. Mais cette journée de printemps inattendue pouvait l'excuser. Personne ne songeait à se retourner, et à présent, tout allait bien. Tout allait à merveille. Il est vrai que déjà, à la prochaine rue transversale, 2 autres sautillements s'échappèrent, 2 petits sautillements à moitié réprimés, sans aucune importance. Et l'un de ces sauts, le seul qui fut vraiment visible, avait été si habilement placé, un tuyau à arroser était justement couché en travers de la rue, qu'il n'y avait rien à redouter. Oui, tout allait encore bien. De temps à autre, la 2e main saisissait aussi la canne, la serrait plus fort, et aussitôt le danger était écarté. Mais je n'y pouvais rien, mon anxiété n'en grandissait pas moins. Je savais que tandis qu'il faisait des efforts désespérés pour paraître indifférent et distrait, les terribles secousses s'amassaient dans son corps. Elle était en moi-même, l'angoisse avec laquelle il sentait croître et croître en lui cette force effrayante. Et je le voyais se cramponner à la canne lorsqu'il commençait de se sentir secoué à l'intérieur de lui. Alors l'aspect de ses mains était si sévère et si impitoyable que je mettais toute mon espérance dans sa volonté qui devait être grande. Mais que pouvait ici une volonté ? L'instant devait venir où ses forces seraient à bout. Il ne pouvait plus être éloigné. Et moi, qui marchais derrière lui, le cœur battant vite, je réunissais mon peu de force comme de l'argent. Et cependant que je regardais ses mains, je le priais de se servir s'il en avait besoin. Je crois qu'il m'en a emprunté. Est-ce ma faute si je n'avais pas davantage à lui offrir ? Sur la place Saint-Michel, il y avait beaucoup de véhicules et de gens qui allaient et venaient. Nous étions parfois pris entre deux voitures. Il respirait alors et se laissait un peu aller, comme pour se reposer, et il se permit un sautillement et un léger hochement. Peut-être était-ce la ruse par laquelle la maladie prisonnière espérait le dominer. La volonté était rompue à deux endroits, et cet abandon avait laissé dans les muscles obsédés une tentation doucement insinuante et comme la contrainte de ce double rythme. Mais la canne était encore à sa place et les mains paraissaient mauvaises et irritées. C'est ainsi que nous posâmes pied sur le pont, et cela allait encore. Mais à présent, sa démarche devenait incertaine. Tantôt il faisait deux pas en courant, tantôt il s'arrêtait. La main gauche se détacha doucement de la canne et se leva si lentement que je la sentais trembler à l'air. Il poussa un peu son chapeau en arrière et se passa la main sur le front. Il tourna un peu la tête et son regard s'égara par-dessus le ciel, les maisons et l'eau, sans rien saisir. Et puis, il céda. La canne avait disparu. Il étendit les bras comme s'il avait voulu s'envoler, et cela éclata hors de lui comme une force naturelle, et le plia en avant, et le tira violemment en arrière, et le fit se balancer et s'incliner, et comme une fronde, jeta sa danse forcenée parmi la foule. Car déjà beaucoup de gens étaient autour de lui, et je ne le voyais plus. J'aurais pu encore continuer ma route, mais à quoi bon ? J'étais vide. Comme un papier vide, je traînais à la dérive en remontant le long des maisons du boulevard.